bonjour à tous. On se retrouve après une late session assez animée. C'était il y a quelques heures. On a parlé de la difficulté des gardiens de phare bretons à, voilà, à attirer des femmes. On a parlé aussi un peu des goûts sexuels de Kevin O'Connor. Là, je pense que je ne pouvais pas faire un meilleur teasing pour le replay de jeudi. Donc voilà, si ça vous intrigue, ça pique votre curiosité, bah, sachez que n'ayez pas honte. Vous avez le droit d'aller regarder le replay de la late session. Mais en attendant, on va quand même se faire un nouveau CQFR. Il n'y a pas de match, évidemment. On attend les finales. Ça commence jeudi soir. Mais chat, il y a pas mal d'infos. Il y a pas mal de trucs qu'on a envie de traiter. On va commencer peut-être d'abord avec les Los Angeles Lakers qui ont sans doute trouvé leur nouveau coach.
Alors, c'est un peu dans la lignée de ce qu'on avait dit déjà hier. Là, pendant qu'on faisait la late session, justement, il y a Shams Charania qui a dit la formulation, on ne veut pas dire que c'est fait, hein, mais que les Lakers se seraient fixés comme... Pour la succession de Darvin Ham sur JJ Redick, comme on le présentait un peu ces derniers jours, voire ces dernières semaines, il n'y a rien de signé. Redick ne s'est évidemment pas encore exprimé, mais visiblement, c'est quand même le choix qui sera pris. Il y avait James Borrego en face. On sait qu'ils ont interviewé aussi deux, trois autres coachs ici et là. On dirait bien que là, ce sera JJ Redick. Et c'est un choix assez fascinant parce que c'est encore un ancien joueur qui n'a pas d'expérience de coach professionnel. Donc ça, c'est pour le côté... sceptique, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui vont se demander s'il n'est pas là juste parce qu'il a fait un podcast avec LeBron, si les podcasts avec LeBron n'étaient pas des entretiens pour le poste déguisé. Il y a aussi le côté positif, c'est un mec très intéressant qui connaît bien le basket et le basket moderne, le basket à l'ancienne, la tactique, la communication. Donc ça va être un cirque, un show, quelque chose qu'on va suivre de très près. Si ça se confirme, il faut attendre que ce soit signé, évidemment. Parce qu'il y avait quand même, moi, j'hésitais un peu, où je me disais que ça se ferait peut-être pas, c'est quand même que Redick, il a martelé sur toute sa fin de carrière et depuis qu'il a arrêté, qu'il voulait rester vivre sur la côte Est quand même. Il avait même, je ne sais plus avec qui il était en brouille, avec les Pelicans, quand il l'avait tradé à Dallas. Il avait soi-disant un deal pour être absolument tradé n'importe où, sauf à l'Ouest. Et il mettait un point d'honneur à ça. Après, j'imagine que le poste de Lakers ne pouvait pas se refuser et que Est ou Ouest, ce n'est pas un problème.
Non, mais j'allais dire surtout pour sa famille, c'est plus facile de vendre Los Angeles que la Louisiane ou le Texas, ouais, quoi. Tu vois.
C'est vrai.
Je pense que Los Angeles compte peut-être à part. Moi, je suis pas aussi. J'ai vu qu'il y a beaucoup de pessimisme autour de JJ Redick en tant que coach. Moi, je suis intrigué. Je me dis que ça peut donner quelque chose. Tu vois, Steve Kerr est arrivé aux Warriors. Je me souviens, il y avait eu énormément de critiques sur le fait d'avoir renvoyé Mark Jackson. Alors, Steve Kerr, il n'avait pas été assistant, si je ne dis pas de bêtises.
Il avait été GM, assistant GM, il avait fait du front office, quoi.
Il avait fait du front office, mais il n'avait pas fait de coaching staff. Alors, c'est vrai que c'était déjà une expérience au sein d'une franchise, ce qui n'est pas le cas de JJ Redick. Je suis intrigué. Moi, en fait, c'est plus pour lui, en fait. Si lui, il veut être coach, moi, je ne capte pas pourquoi c'est ça qu'il prend comme premier job en NBA. C'est une équipe avec les LeBron, donc il y a énormément de pression. Tu vas devoir coacher LeBron, un mec avec qui tu fais un podcast, et tu vas devoir maintenant lui donner des ordres d'une certaine manière. Par moment, le coach, il donne des ordres. Quelle sera, la limite,
Moi, je veux qu'il pousse
la pression des Lakers, la pression de LeBron, la pression éventuellement de Bronny s'il est drafté. Ouais.
Moi, je veux qu'il pousse le truc jusqu'au bout, qu'il continue le podcast quand il sera coach, qu'après une série de 6 défaites, LeBron dise, mec, pourquoi tu continues de titulariser Taurean Prince, tu vois, et qu'on voit ça en direct dans chaque émission.
Non, mais je
comprends. Après, pour Steve Kerr au même titre pour Redick, là où on peut dire qu'ils sont encore connectés au jeu actuel, c'est qu'ils ont été, ils étaient consultants tous les deux. Ils sont dans le jus, donc ils arrivent à. Ils sont au courant des tendances de jeu, des joueurs et tout ça. Ça va. C'est plutôt vraiment, je suis d'accord avec toi, pour l'expérience même de coach des Lakers, avec la pression médiatique, avec même juste
griller,
la situation, la situation sportive. D'ailleurs, c'est peut-être ça qu'il a vendu à madame. Il a dit, t'inquiète, ça ne durera pas très longtemps. On va se faire 6 mois ou 1 an à Los Angeles, tout ferait payer. Et puis, mais honnêtement, si c'est bien ça le choix, c'est hyper intrigant. Et c'est un mec que j'aime beaucoup et que je rate quasiment aucun de ses podcasts. Donc je le trouve intéressant et il a plein de bonnes idées sur le jeu et sur la ligue. Donc après tout, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas s'il a eu le choix, en fait, parce que tu disais pourquoi prendre celui-là. Je ne sais pas si ce qu'il a auditionné à Toronto, ils ont choisi Rajakovic l'année dernière. Il a auditionné à Charlotte. Pour l'instant, ils sont sur d'autres pistes. Je crois qu'il avait été cité pour un ou deux autres postes et peut-être que les Lakers, c'est là où on lui a proposé le job finalement.
Ouais, c'est vrai. Après, il y avait peut-être encore un peu le temps. Il est jeune, tu vois, peut-être. J'imagine qu'il ne veut pas faire assistant, du coup. J'ai l'impression, c'est peut-être passé directement head coach et qu'effectivement, là, bah, il n'est pas sûr d'avoir une autre opportunité. Bon, ça, c'est intriguant. On verra. De toute façon, ce n'est pas encore complètement fait, comme tu l'as dit. Hein. Ça vient, Shams, il met peut-être une pression en annonçant ça. Tu vois, il y a peut-être des, y a tellement de choses qui entrent en jeu à chaque fois pour la NBA, ouais. Et notamment quand il s'agit des Lakers ou de tout ce qui concerne les LeBron James. Je pense que le vrai... C'est vrai que tu vois, il y a souvent cette bataille des insiders entre Shams et Wojnarowski qui sont parfois mis sur un pied d'égalité. Mmh. Pour les trades, je suis d'accord. Mais pour ce qui est des rumeurs, pour moi, c'est quand même Woj qui est encore celui où ça fait office presque d'officialisation. Tu vois. Donc, ouais. on verra ce qui tombe sur ESPN dans les prochains jours, peut-être les prochaines heures.
Ouais.
On va enchaîner avec une autre rumeur qui vient d'ESPN, mais qui ne vient pas de Wojnarowski, qui vient de Givony, Jonathan Givony, qui n'est pas un insider, hein, c'est un spécialiste draft. Je tiens à le préciser, ça va être important dans le contexte. Mais effectivement, autour de la draft, il s'entretient quand même avec beaucoup de monde, avec des scouts. Il a parlé des Spurs et ce qui note Shai, je vais te lancer là-dessus, les Spurs chercheraient à être compétitifs dès la saison prochaine. Compétitif, on n'a pas de définition de compétitif. Ils ne voudraient plus être dans la loterie l'an prochain. Et du coup, ils vont être très agressifs, pareil, on n'a pas de définition de très agressif, avec les picks 4 et 8 de cette année. Et il ajoute aussi que tout le monde est susceptible d'être transféré au sein de l'équipe, sauf Victor Wembanyama et Devin Vassell, et que tous les free agents, selon lui, alors là, pareil, j'imagine que ce n'est pas entretenu avec les free agents, c'est son interprétation, seraient très chauds à l'idée de jouer Wembanyama, et tous les vétérans arrière seraient très chauds à l'idée de jouer avec Wembanyama. Qu'est-ce que tu en penses, Shai? Comment tu interprètes ça? Qu'est-ce que tu vois?
Bah c'est pas tellement ce à quoi moi je m'attendais pour les Spurs. Tu m'avais assez convaincu avec l'approche patiente de continuer de développer les joueurs qui sont là, plus les renforcer petit à petit. Je les imagine pas se dire on veut tout de suite jouer les playoffs ou être compétitif immédiatement. On a vu que Victor Wembanyama était déjà très très fort. Autour, c'était pas encore totalement au niveau individuellement, collectivement, mais l'Ouest est tellement chaud que franchement, sans se dire on est compétitif, ça veut dire quoi? Essayer d'accrocher le play-in? Dans ce cas, il faut effectivement faire des moves, je pense. Et qu'est-ce que ça veut dire être agressif avec les 4e et 8e choix? Est-ce que ça veut dire refaire venir un vétéran? Est-ce que ça veut dire faire venir d'autres bons jeunes joueurs? Est-ce que ça veut dire grimper, essayer de grimper dans la draft avec un choix plus élevé? J'ai lu ici et là qu'ils disaient même qu'ils étaient intéressés par le first pick parce que Atlanta était fixé sur Donovan Klingan qui pourrait avoir avec un autre pick. Enfin, c'est très très flou. Je me demande si c'est pas ce que tu me disais en off, est-ce que c'est pas un peu pour mettre un peu d'excitation autour d'une draft qui est pas la plus excitante de ces dernières années? Et qu'est-ce qu'il y a de plus excitant que de relier la draft avec Victor Wembanyama, qui est un sujet qui intéresse tout le temps? Que Victor, ils disent, je pense que quand il a des discussions avec les Spurs, il leur dit bon les gars, moi j'aimerais bien qu'on joue quelque chose relativement rapidement. Je le vois pas leur dire les gars, je vais faire la tronche si l'année prochaine on joue pas les playoffs. Je pense qu'il est quand même assez intelligent pour savoir que déjà faire 5 ou 10 victoires de plus, ce serait très beau. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas surtout quel joueur ça impliquerait, parce que là il parle des free agents, des arrières vétérans. Est-ce que c'est un mec comme Darius Garland? Enfin, on sait qu'il y a des meneurs qui les intéresseraient en théorie, parce que c'était un des secteurs où ils étaient défaillants. Je sais pas. Toi, t'as une idée sur ce que ça veut dire précisément ou...
Non, pas tellement. Déjà, oui, le contexte est important. Le contexte de Givony qui travaille pour ESPN. La draft, elle est diffusée sur ESPN. Ah. C'est un événement très important de l'année. C'est un événement qui se fait spoiler sur Twitter. Donc, il y a plein de gens qui la suivent sur Twitter et pas forcément sur ESPN. Ils ont besoin de... C'est un événement où il y a de la pub. Hein. Il faut vendre. Donc, il faut créer un engouement. On a une QV qui est annoncée plus faible ou moins excitante. Je pense qu'il y a plein de joueurs intéressants dans cette QV, mais déjà, il y a beaucoup d'Européens. Ça ne passionne pas forcément le public américain. Faut être très franc.
Les Européens ne vont pas se lever à 2h du mat. Pour.
Exactement. C'est des mecs, et ils ne regardent pas sur ESPN. On regarde tous sur un live stream. On est sur Twitter ou sur des live streams. Donc, il faut la vendre, cette draft. Il faut la vendre. Il y a une volonté de la vendre. Ça ne veut pas dire... Je ne dis pas que Givony a forcément inventé ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et même, ce qu'il dit est peut-être vrai, mais ça peut être interprété. Quand on pense à être agressif, quand on pense à être compétitif, il y a toujours cette idée du super trade. Moi, je ne suis pas sûr que les Spurs ils aient un super trade. Je ne suis, pas sûr déjà que ce soit dans leur intérêt, mais je ne suis même pas sûr que ce soit ce qu'ils aient envie de faire. Parce qu'un super trade, ça veut dire quoi? Un super trade, c'est quoi? C'est Trae Young, c'est Brandon Ingram, c'est Darius Garland. Est-ce que c'est des joueurs? Alors, Trae Young, éventuellement, oui, tu peux te dire c'est une vraie superstar. Il y a peut-être effectivement une vraie association à faire avec Wembanyama, mais c'est aussi du coup le joueur le plus cher dans le lot. Et c'est, tu ne lâches pas que les picks 4 et 8. Je ne suis même pas sûr qu'Atlanta ait envie d'avoir les picks 1, 4 et 8 d'une cuvée annoncée faible. C'est des picks futurs, c'est des joueurs. C'est peut-être Keldon Johnson, Jeremy Sohan. Deux de ces mecs-là, peut-être Trae Jones. Enfin bref, il y a plusieurs mecs à mettre. Donc, est-ce qu'un effectif demain avec Trae Young, Victor Wembanyama, un ou deux vétérans que tu signes au prix fort, parce que déjà, des mecs qui veulent, peut-être que les mecs veulent venir jouer avec Wembanyama, mais pour venir dans la ville de San Antonio, des mecs confirmés, tu dois leur donner du salaire. Hein. Je rappelle ce que les Rockets ont donné à Dylan Brooks, il a fallu donner 80 millions. Tu vois, tu payes plus cher quand tu veux faire venir des mecs comme ça, des mecs confirmés, des mecs de, entre guillemets, seconde zone ou intermédiaire, donc des gars forts, mais pas des stars. Tu ne peux pas en signer 4 hein, parce que tu les surpayes, donc tu en signes 2. Donc 2 avec Victor Wembanyama, Trae Young, éventuellement un des jeunes qui reste. Est-ce que c'est très compétitif à l'Ouest? Je ne suis pas sûr que ce soit très compétitif à l'Ouest.
Ce sera plus compétitif, mais
c'est pas très compétitif alors que tu as sacrifié une partie de ton avenir. Wembanyama, il est fort. Il est très fort, il va être très 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 fort. Peut-être même dès l'an prochain, il sera très 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 fort. Mais déjà, tu peux attendre février pour voir à quel point il est fort. Il y aura toujours peut-être un trade comme ça à faire. Et surtout, il est très fort. Mais Edward, ok, les jeunes sont forts de plus en plus jeunes. Ok, Edwards a 22 ans, il mène son équipe en finale de conférence. Déjà, il y a eu plusieurs trades pour les Timberwolves entre temps. Il y avait déjà 4 avant lui. Edwards, il a quand même fait 4 ans NBA avant de pouvoir faire ça. LeBron James et Kevin Durant, ils n'ont pas joué les playoffs durant les deux premières saisons de leur carrière, en fait. Est-ce que Victor Wembanyama, il est armé pour faire mieux que LeBron James et Kevin Durant? Si ta réponse... Enfin, tu vois, les deux premières saisons, c'est des gars qui ne jouent pas les playoffs. Non, d'abord, ça draft. Moi, je pense que la progression de Wembanyama, en elle-même, elle rendra les Spurs de plus en plus compétitifs. Et je trouve que sacrifier des pièces sans savoir encore qui va coller avec lui... Tu vois, parmi les Sohan, le mec qui sera peut-être drafté en 4, le mec qui sera drafté en 8, on ne sait pas encore qui va fit, on ne sait pas encore qui sera dans le projet dans 3 ans. Donc, tu sacrifies un mec, tu ne sais même pas encore vraiment s'il a sa place dans le projet, pour faire venir une star dont tu ne sais même pas encore vraiment si ça va fit avec Wembanyama. Il y a encore tellement de choses inexplorées. Je pense que tout peut être vrai. Les faits que les Spurs n'ont pas envie d'être dans la loterie l'an prochain, c'est logique. S'ils gardent les picks 4 et 8, qui a en plus déjà Sohan, Vassell, Johnson, etc., bah, ils n'ont pas besoin d'un jeune de plus, ils ont déjà le noyau dur, et puis on voit qui va fit dans ce noyau dur. Donc ça peut être vrai. Que les Spurs soient agressifs, ça peut être une manière de se dire, bah, on verra, peut-être qu'on va en transférer un des deux, peut-être que s'il y a une offre intéressante. Mais il y a beaucoup, final d'incertitude, et vouloir être compétitif, ça ne veut pas forcément dire faire un gros trade. Parce que si tu gardes ton jeune noyau dur, que chacun progresse, que Vassell progresse, que Wembanyama progresse, et que tu fais effectivement venir un ou deux vétérans, mais tu peux déjà être à 35-40 victoires et envisager le play-in. Mais franchement, il y a un énorme cap entre les Spurs. La saison historique de Wembanyama, je rappelle, elle est quand même dans un contexte où ils gagnent 22 matchs. Donc pas un seul match de plus que l'année où ils n'ont pas Wembanyama. Est-ce que tu vois le gap là entre les Spurs et la sixième place? Les Mavericks ont fait cinquième à l'Ouest cette saison. Combien de joueurs faut ajouter pour que les Spurs y rivalisent avec cette équipe des Mavericks qui est en finale?
C'est ça, et rien ne nous dit non plus. Je pense qu'ils envisagent toutes les hypothèses. Ils peuvent aussi se dire il y a un scénario où on a un pourcentage de chances élevé de drafter Cooper Flagg, par exemple. Et que si tu arrives à associer ces deux talents-là, même si ta fenêtre de tir est faible, hein, parce que à moins de finir dans les trois derniers, ce qui est encore possible, s'ils changent pas grand-chose et qu'ils sont encore sur des jeunes, c'est possible. Moi, à leur place, je m'enlèverais pas cette possibilité-là tout de suite. Si la saison démarre doucement, donc il y a ça. Et puis après, je suis assez d'accord. Je préférerais avoir une construction progressive. Tu vois, là, des équipes émergentes, même type Orlando, Indiana, toutes ces équipes-là, elles sont passées par ce que t'as dit, par des, OKC, l'accélération a été brutale.
Et il n'y a pas eu de trade. Voilà.
Ils sont appuyés vraiment sur les joueurs qui étaient là. Ils ont attendu la draft d'Holmgren aussi pour accélérer quand même. Enfin, le fait qu'ils soient aptes à jouer. Et c'est ça, ils n'ont pas fait d'énormes trades. Ils ont petit à petit fait plus jouer les joueurs qu'ils avaient déjà, et c'est devenu l'équipe numéro 1 à l'Ouest en saison régulière. Donc oui, je pense que c'est une approche qui peut être inspirante pour les Spurs. Là, on est quand même, à mon avis, plus sur ce que tu as dit. Hein. Ils sont obligés aussi quand même d'apporter un peu d'excitation et d'intérêt autour de cette draft, c'est sûr.
Ouais, et le Thunder est super comparaison, t'as raison, parce que quand chez Gildeux Alexander, on se rend compte qu'il va être fort, tu peux être tenté de balancer tous tes picks et plein de mecs pour faire venir une autre superstar à ses côtés. Ils ne l'ont pas fait, ils ont eu raison de ne pas le faire. Même là encore, pendant la saison, ils auraient pu balancer des picks pour faire venir un joueur, ils ne l'ont pas fait. Ils ne le feront peut-être même pas cet été. Les Celtics ne l'ont pas fait, ils ont eu Tatum, Brown et des tas de picks, ils auraient pu aussi le faire, ils ne l'ont pas fait. Je pense que les Spurs ont intérêt... En fait, les picks deviennent très intéressants justement le moment où Wembanyama sera un des joueurs susceptibles de vraiment mener une équipe au titre. Parce que je rappelle, j'en ai fait tout un article, c'est sur basketsession.com, j'ai fait tout un article sur ce sujet. Mais quand les Nuggets, ils ont besoin de retrouver une pièce autour de Jokic, Aaron Gordon, il faut lâcher du pick. Quand les Bucks, ils ont eu besoin de faire Jrue Holiday, il faut lâcher du pick. Quand les Celtics, faut faire Derrick White, faut lâcher du pic. Kristaps Porzingis, faut lâcher du pic. Jrue Holiday aux Celtics, faut lâcher du pic. J'en oublie certainement, mais tu vois, tous ces trades, PG Washington et Daniel Gafford, faut lâcher du pic. C'est des trades que tu fais quand tu es fort et que tu as besoin de passer un cap, qu'il te faut le joueur de complément. Et ben c'est là que tu as besoin de tes pics, tu as besoin de cette flexibilité. C'est important de garder les pics. Je pense que les Spurs, même encore aujourd'hui, on ne sait même pas vraiment quelles superstars sont disponibles. Tu attends un peu, il y aura peut-être une star vraiment disponible sur le marché. Tu vas regarder tes pics et là, tu te diras, boum, là, c'est bon, banco, on y va. Tu vois. Moi, je serais effectivement d'avis de jouer la patience. On peut enchaîner avec Kyrie Irving. Shai, je vais te laisser la main sur Kyrie et sur LeBron James. On revient à LeBron James et sur ce que LeBron James a dit de Kyrie Irving.
Ouais, okay. Bon, de toute façon, Kyrie, on en a parlé hier, hein. c'est un personnage marquant, il est dans l'actu, là. Il a même lancé avec sa marque, avec Anta, enfin, pas avec sa marque, mais avec la marque qu'il sponsorise, une chaussure signature pour son père. C'est la première fois que ça arrive. Ça m'a refait penser au jour où il a vrillé, hein, mais où il s'est dit qu'il allait se barrer des Cavs. C'est quand les journalistes lui ont demandé si c'était bien d'avoir une figure paternelle comme LeBron James autour de lui, et il avait été choqué. Et je crois que 3 semaines après, il demandait son trade. Donc à mon avis, c'était pas anodin. Là, c'est pas du tout ça. Là, c'est juste que c'est LeBron dans un extrait du prochain épisode du podcast qu'il fait avec JJ Redick, justement, dont on parlait, Mind the Game. Qui encense totalement Kyrie. Je vais te lire la citation. Il dit « Je l'appelais le magicien tout le temps. Il n'y a rien que Kyrie Irving ne puisse faire sur un terrain de basket. Quand je le vois en ce moment, putain, je suis heureux et fier de le voir continuer à grandir. Et en même temps, reputain, ça me rend fou de ne plus être son coéquipier. Kyrie est la wildcard ultime. Il y a tellement de mots avec lesquels je peux l'encenser que je finis par ne plus en avoir. Et là, il en remet une couche. Il est le joueur le plus doué que j'ai jamais vu en NBA. » Dans ma carrière, je n'avais jamais vu un mec se sentir parfois mieux en shootant de sa mauvaise main. Si un soir, il n'est pas en réussite avec sa main droite, il est capable de tout faire exclusivement main gauche. Je n'ai jamais vu ça. Le tir qu'il a mis contre Denver devant Jokic est l'un des plus incroyables que j'ai pu voir. Voilà, LeBron en mode nostalgique, LeBron qui regrette de ne plus pouvoir jouer avec lui. Il y avait eu des rapprochements. On sait que Kyrie était OK pour la réunion, que LeBron était OK, que les Lakers n'avaient pas voulu s'engager sur un contrat longue durée avec lui, au contraire de ce qu'ont fait les Mavs. Je ne sais pas s'ils rejoueront un jour ensemble, mais LeBron a l'air de quand même regretter pas mal cette époque et ça se traduit par ça, par ces déclats sur Kyrie.
Peut-être à Dallas si les Mavericks perdent la finale, qui sait.
Ouf, LeBron à Dallas, ouais, avec Doncic, je ne sais pas.
il adore Luka et Luka, c'est son modèle, hein, LeBron.
C'est vrai.
Mais bon, je
pense que Kyrie se dirait plutôt, tiens, j'étais tranquille là et je recommence à être bon, et il vient reprendre l'espace, tu vois.
Ouais, LeBron, ça peut être aussi une petite pique envers ses dirigeants qui n'ont pas su du coup justement aller faire venir Kyrie. Et là, c'est vrai qu'il avait raison au final de vouloir Kyrie. Je trouvais que c'était une mauvaise idée pour les Lakers à ce moment-là. Hein. Tout comme je pensais que c'était pas forcément bien pour les Mavs, et à chaque fois, les Mavs m'ont donné tort, Kyrie m'a donné tort.
Et soit dit en passant, c'est pas évident que ça ait marché avec les Lakers. Hein,
exactement, c'est vrai.
C'est-à-dire que là, il est fantastique avec Dallas, et bravo, le trade a fonctionné, et l'ajustement, la demi-saison a fonctionné. Mais c'est des contextes très différents, avec des joueurs très différents aussi. Donc.
Ouais, et dans la vie, déjà, souvent, plein de choses sont juste une question de contexte. Et tu peux te dire qu'avec Kyrie, c'est encore plus une question de contexte. Il a dit lui-même qu'il était en paix à Dallas, qu'il a trouvé la paix à Dallas et que, justement, il vit les meilleures années de sa carrière, ce qui est intriguant, enfin, ce qui est marrant, parce que d'un côté, tu as LeBron qui regrette vachement l'époque où il jouait avec Kyrie. Et Kyrie, lui, sa meilleure passe en carrière, c'est là, avec Dallas. C'est même pas quand il a gagné un titre avec LeBron. Voilà, là, il dit qu'il vit ses meilleures années. Pour finir, Shai, je te propose un autre petit débat. Ça nous vient d'une session. Je vais encore mettre une session en avant. Évidemment, je viens de la fermer, donc j'ai oublié qui l'a écrite. Donc, je vais aller la rouvrir quand même. Surtout qu'on nous demandait notre avis. Et évidemment, c'est à ce moment-là que le site bug.
C'est l'auteur de la session, c'est El Doudou.
El Doudou, ouais. Ces trucs de pseudo.
et donc, elle s'intitule « Pourquoi Golden State ne reconstruit pas ?» Voilà.
Et donc, El Doudou. Vas-y, vas-y.
C'est ça, du coup, j'enchaîne si, au cas où, si la page n'allait pas. Vas-y. Mais donc, il précise bien qu'il suit la NBA que depuis 2015 et que donc, il voulait aller un peu la vie des gens. Et il se demande si les Warriors ne devraient pas déjà être en mode reconstruction et pourquoi est-ce qu'ils s'attachent à continuer absolument avec ce noyau-là. Il se demande si même envisager un trade de Steph Curry ne serait pas pertinent, est-ce que ce ne serait pas plus productif sportivement parce que sa valeur va baisser avec le temps, que des franchises ont tendance à surpayer des joueurs qui vieillissent. On avait discuté de Jimmy Butler l'autre jour aussi, par exemple. Voilà, c'est une session intéressante qui pose question sur... Alors, bon, El Doudou, il a clairement une cible en tête aussi. Hein. Il nous dit, depuis que Green, fléau de cette ligue, a été prolongé jusqu'en 2027... C'est un truc qui pose ce problème selon lui. Mais c'est une question intéressante parce que ça montre deux approches de la part des gens en général et des franchises tout court. Est-ce que tu vas jusqu'au bout avec l'équipe avec laquelle tu as déjà gagné par respect pour ceux qui sont déjà là, notamment pour ton franchise player, ou est-ce que tu es un peu sans pitié en te disant je pense à mon job et à la compétitivité de l'équipe et est-ce que je fais des gros moves? Donc là, pour moi, les Warriors ont déjà choisi. Hein. Ils vont aller avec Curry jusqu'au bout, je pense.
Oui, bah, tu transfères pas ta star, en fait. Ou pas une superstar aussi iconique. Tu vois, les Mavericks sont jamais transférés Dirk Nowitzki. Les Lakers sont pas transférés Kobe Bryant. Je sais pas, des exemples, il y en a plein. Tu peux pas transférer le mec qui a été l'icône de ta franchise. Donc en fait, ça va au-delà. Reconstruire, mais pourquoi? Parce que déjà, oui, tu peux échanger Curry contre 4-5 picks, mais est-ce que dans ces 4-5 picks, il y a vraiment la superstar qui va t'assurer d'être compétitive à nouveau pendant 10 ans? Quel est le long programme de reconstruction? Regarde ce que font les Pistons, ils ont eu plein de picks, tu vois, et au final, tu es enlisé, et là, tu perds ta fanbase, il y a moins de gens qui viennent à la salle. Là, Curry, jusqu'au bout, tu sais que c'est... Et puis, il y a de l'humain, en fait. Faut pas oublier que... Il y a des hommes, en fait, qui sont concernés. Tu ne peux pas juste quand même tourner la page d'un mec que tu fréquentes. Pas juste les joueurs, en fait. Les coachs, l'encadrement, la franchise, tout le monde. Tu vois, à Golden State, tout le monde croise Curry. Des fois, tu as aussi un peu envie de rester avec ton équipe jusqu'au bout. Et puis, si elle perd, elle perd. Et puis après, tu reconstruis plus tard. Tu penses à ta reconstruction plus tard. Mais tu n'es pas toujours obligé de te dire « Ah bah là, ça ne marche plus ». On ne peut plus vraiment gagner avec lui, ce qui n'est pas encore garanti. Hein. Il peut y avoir encore des moves. Je pense effectivement, comme El Doudou, que je ne suis pas sûr que les Warriors aient des moves qui leur permettent de vraiment revenir sur le devant complètement de la scène, mais tu peux encore aller jouer des campagnes de play-off. Tu vois, tu crées une excitation autour de ton équipe. Il y a encore des belles choses à vivre du côté de Golden State. Et je pense qu'il faut, de manière générale, casser cet esprit de... Ah, je gagne pas, je suis dans le milieu, donc tout de suite je reconstruis forcément. C'est pas une science exacte, ça c'est un peu plus subtil que ça. Et du coup, moi, non seulement je transférerais pas Curry, ça c'est une chose, mais si j'étais les Warriors, je chercherais quand même vraiment à finir avec Klay Thompson et Draymond Green.
Ouais, moi aussi, c'est ce que. Enfin, si tant est que Draymond soit dans le bon état d'esprit, évidemment. Enfin, reste le joueur performant ou important au niveau du cœur qu'il a toujours été sans trop partir en vrille parce que ça, mine de rien, Curry l'a dit lui-même, hein, c'est des choses qui freinent leurs ambitions. Mais oui, non, je suis d'accord, il n'y a pas. Puis, la question se poserait si le déclin était spectaculaire pour Curry, par exemple. Si on pouvait envisager.
Mais du coup, tu ne pourrais plus avoir 4-5 picks.
Tu ne pourrais plus avoir 4-5 picks, voilà. Mais non, ils vont aller jusqu'au bout, j'ai aucun doute là-dessus. À la limite, il y a un peu moins de certitude autour de Clay et Draymond Green, parce que Clay a toujours pas. Enfin, il y a la prolongation qui est en discussion, il faut voir comment vont aller les négociations, ce que lui voudra. Comme salaire, ce que les Warriors seront prêts à lui donner. Et Draymond, on n'est jamais à l'abri de, au bout d'un moment, ils se disent bon, ça y est, il nous a fatigués et il a quand même toujours une petite valeur sur le marché. Donc je pense qu'on se dirige vers ça. Ils vont mourir à une dynastie qui mourra avec ses idées, avec ses hommes. Et c'est très bien comme ça. C'est bien aussi les histoires comme ça où ça se finit pas dans l'aigreur, la frustration, et où 10 ans après, il y a une réunion pour finalement solder les comptes. Et c'est très bien. Faut que ça se finisse comme ça.
J'espère que nous aussi, le CQFR se terminera pas comme ça et pas une réunion où Théo nous dira « Alors là, à la 24e minute, vous avez dit que Jimmy Butler, il n'était pas assez ceci ou pas assez cela. » Mais ouais, bon, pardon, c'était une transition que j'imaginais un peu plus fluide dans ma tête. On va effectivement s'arrêter là-dessus. Mercredi, il n'y a pas de date spéciale pour la chaîne Basket, c'est sûr, mais demain jeudi, il y aura évidemment un nouveau CQFR et le replay de cette fameuse late session que je vous ai vendue au début de la vidéo. Et vendredi, pour le coup, enfin dans la nuit de jeudi à vendredi, on aura le premier game des finales. Donc vendredi, il y aura un CQFR explosif. On parlera évidemment du Game 1, on reviendra sur le Game 1. Ça va être particulièrement intéressant. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez aller checker basketsession.com. Comme je vous l'ai dit, il y a des mags, notamment sur les Spurs. Hein. Là, je suis allé beaucoup plus en détail sur les Spurs, sur cette histoire autour de Wembanyama compétitif. Il y a évidemment d'autres mags. Toi, Shai, t'en as écrit deux, notamment sur les finales, sur pourquoi Boston va gagner, pourquoi Dallas va gagner. Ouais. Voilà, si vous voulez avoir nos arguments là-dessus, notre point de vue là-dessus. Il y a tout plein de sessions aussi de nos lecteurs, de nos auditeurs. Donc, allez checker un œil. Vous pouvez participer à la vie du site, pour le coup, que ce soit en commentaire ou en amenant vos avis, vos questions. Comme vous l'avez vu, là, on a pu répondre à celle de El Doudou. Du coup, les pseudos, je m'y fais toujours pas, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à checker ça. C'est la phrase que je dis, je crois, le plus souvent dans les CQFR. Et nous, on se retrouve demain. Ciao à tous, bonne journée.
Ciao, à demain.